chers auditeurs, bonjour. Je suis bien content de nouveau de vous retrouver sur Ogoui, OxyWeb, dans l'émission Estoria. Êtes-vous prêt à venir naviguer une dernière fois sur le canal du Midi? Avant de conclure notre voyage sur ce fameux canal, je souhaite, comme promis, évoquer certains ouvrages d'art remarquables que nous avons rencontrés. Je commencerai par citer le tunnel de Malpas, long de 165 mètres, qui permet de passer sous une colline. Vous vous en souvenez, il fut creusé sur l'ordre de Riquet, qui avait osé percer la colline en désobéissant au chevalier de Clerville, architecte du roi, qui voulait, lui, traverser la rivière Aude, ce qui aurait allongé énormément les travaux et coûté plus cher. Je ne veux pas non plus oublier l'épanchoir de l'argent double situé à la Redorte. Cet épanchoir a été conçu par Vauban et permet de rejeter le trop-plein d'eau hors du canal. C'est une œuvre en pierre de taille de 11 arches qui se suivent. Remarquable, bien sûr, la pente d'eau de Fonzeran dont nous avons beaucoup parlé, cette pente d'eau qui permet d'éviter l'ensemble des 9 écluses de l'échelle de Fonzeran. Il ne faut pas non plus oublier les ouvrages du Libron qui permettent de franchir la rivière Libron située près d'Agde. Et pour terminer, pensons aussi aux astucieux moulins à eau du canal qui, situés en dérivation à de nombreuses écluses, utilisaient le dénivelé pour actionner des meules à céréales. Les bords du canal sont ombragés par des arbres de diverses essences. Mais, à l'origine de sa construction, le canal du Midi n'était pas bordé d'arbres. En faisant planter, Riquet ne recherchait pas obligatoirement l'ombre, mais plutôt à stabiliser les berges du canal, surtout là où il surplombe des terrains avoisinants. Plusieurs essences ont été plantées. D'abord, le saule, très utilisé pour sa croissance rapide. Au XVIIIe siècle, on pensa à rentabiliser ces plantations. Et par exemple, on va faire l'élevage du ver à soie. Pour cela, on va planter des mûriers. Mais quand la soie sera passée de mode, aux environs de 1772, on va remplacer les mûriers par des peupliers d'Italie, car ils produisent de bons bois. Autour des maisons des éclusiers, on va planter des arbres fruitiers. À l'origine, on a planté environ 45 000 arbres et en 1789, il y en avait plus de 100 000. La gestion du canal est confiée, comme je vous l'ai dit, de 1858 à 1898, à la Compagnie des chemins de fer du Midi, qui va mettre en place un plan de gestation des plantations. C'est le titre. Ils vont planter des platanes. Pourquoi ? Le platane est un arbre très présent localement. En plus, il est économique. Il demande peu d'entretien, il a besoin d'eau et il assure une excellente tenue des berges. Et en plus, son feuillage généreux apporte une ombre bienfaisante pour les péniches. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus que des platanes qui ont commencé à être plantés sous le Second Empire. Mais, hélas, depuis plusieurs années, ces platanes posent problème car ils sont malades, atteints par ce que l'on appelle le chancre doré qui a été détecté en 2006. Des campagnes d'abattage sont menées pour essayer d'enrayer la propagation de ce champignon microscopique, les autorités sanitaires ont décidé en 2006 de procéder à l'éradication des 42 000 arbres malades sur les 80 000 existants. Cependant, une chercheuse, Adeline Régnier, a mis au point un traitement alternatif à l'abattage systématique. Elle fait de micro-injections d'un certain fongicide et Plusieurs mois après, les résultats ont été estimés producteurs. Un vaccin serait même à l'étude. Enfin, une méthode mise au point par l'INRA permet la mise en place d'une nouvelle variété de platane appelée Platanor, qui est résistant à la maladie. Le canal du Midi est une des plus grandes réalisations de la fin du XVIIe siècle et Pierre-Paul Riquet a eu le génie de comprendre le système hydrologique de la Montagne Noire. Quant à Louis XIV, il a su reconnaître l'intérêt que ce canal apporterait au Languedoc et au même au-delà. Et il a voulu laisser une marque de sa volonté de grandeur. Imaginez, en 1789, Thomas Jefferson, homme politique, architecte, ambassadeur des États-Unis en France et qui deviendra plus tard le troisième président des États-Unis de 1801 à 1809, est venu, président Jefferson est venu étudier le canal du Midi car il projetait de relier le fleuve Potomac au lac Erie par un ouvrage similaire. Quand le canal du Midi, appelé à l'époque Canal Royal, fut achevé en 1681, il reliait Toulouse à Sète. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit ce canal au génial Pierre-Paul Riquet, qui a rêvé de réaliser, comme bien d'autres avant lui, d'assurer la liaison entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Je vous le rappelle, Néron, Auguste, Charlemagne, François Ier, Charles IX, Henri IV ont tous pensé aux bénéfices qu'apporterait un canal qui permettrait d'éviter de passer par le détroit de Gibraltar. Tous les projets avaient été arrêtés par la grande difficulté résidant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans l'alimentation en eau du canal au niveau du passage du seuil de Naurouze. Riquet avait trouvé la solution, il a permis la jonction Toulouse-Sète et il aurait bien voulu continuer le canal en direction de l'Atlantique pour réaliser ce qui sera plus tard fait, le fameux canal latéral à la Garonne qui termine en fait la jonction entre les deux mers. Mais les agrandissements successifs du château de Versailles, les fastes des fêtes, Louis XIV a vidé les caisses du royaume et le projet tomba aux oublis. Pendant encore près de deux siècles, en sortant du canal du Midi, si on désirait poursuivre vers l'Atlantique, il fallait naviguer sur la Garonne malgré ses caprices, ses crues, ses fantaisies et on faisait une navigation périlleuse. Pour franchir la distance Toulouse-Bordeaux, lors des périodes de sécheresse, la Garonne n'était plus navigable et il fallait donc reprendre la vieille route le long des côtes espagnoles et faire le tour par Gibraltar, soit plus de 3000 km de plus. Le besoin d'améliorer la liaison devient indispensable car en ce début du XIXe siècle, la révolution industrielle est en marche. Il est crucial de créer des voies de communication pour permettre justement la circulation des matières premières. Une ordonnance de 1828 ordonna l'étude des travaux nécessaires au prolongement du canal du Midi. Cette étude sera terminée en 1830, mais il faudra quand même attendre 1832 pour que l'État accorde la concession perpétuelle à une société privée appelée Société Magendie-Sillon. Cette loi fixa la construction du canal latéral à la Garonne. Elle prévoyait que l'approvisionnement en eau de ce canal serait fait par les eaux de la Garonne et passerait au départ de Toulouse par le canal de Brienne. Mais revenons à la fameuse Société Magendie-Sillon. Dès le début, le propriétaire, le sieur Dion, n'a pas respecté les engagements pris avec l'État et il fut déchu de ses droits. Cependant, cette déchéance sera relevée par la loi du 9 juillet 1835 ce qui lui donnera d'autres délais, mais n'en profitera pas car il meurt avant le commencement des travaux. Alors, une nouvelle loi, en 1838, alloue 100 000 francs aux héritiers du sieur Thion. De plus, l'État leur achète les pièces du projet pour 150 000 francs. Et le projet est alors confié à Jean-Baptiste de Baudre, qui est inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. Des milliers d'ouvriers vont construire les 193 km de voies fluviales. Le tronçon Toulouse-Montèche-Montauban est ouvert en 1844. Le canal latéral sera fonctionnel en amont de Buzet-sur-Baïse en juin 1853 et sera terminé en mai 1856. Il s'achève en même temps que la construction de la ligne ferroviaire Bordeaux-Sète qui suit le même axe. À ses débuts, le train ne concurrence pas le transport fluvial. Mais vous vous souvenez sûrement que Napoléon III, en 1858, a confié la gestion du canal du Midi à la Compagnie des chemins de fer du Midi. Et souvenez-vous, cela a entraîné les premiers déboires du canal. Eh bien, la même chose va se passer pour le canal du Midi, le canal latéral. Napoléon III confie le bail d'exploitation à la même compagnie des chemins de fer du Midi et ils sont concurrents directement des péniches et des bateliers. La compagnie, comme elle l'avait fait pour le canal du Midi, augmente d'emblée les taxes sur le transport fluvial. Et comme pour le canal du Midi, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. L'État s'en préoccupera et enlèvera à la Compagnie des chemins de fer du Midi la concession en 1898. Mais c'est trop tard, car entre 1850 et 1893, le fret a diminué des deux tiers. Jusqu'aux années 1970, le canal a vivoté, servant surtout au transport des marchandises. On tente alors de le moderniser, on le met au gabarit Fraissiné. On avait fait le même projet pour le canal du Midi, vous vous en souvenez, mais on n'a rien fait pour le canal du Midi et on n'a pas pu éviter le déclin inexorable des deux canaux. Ils seront quand même tous deux sauvés par un nouveau trafic, le tourisme fluvial. Le tourisme fluvial va se développer énormément, amenant les visiteurs à la découverte de sites magnifiques dans un territoire historique exceptionnel. Son voisin, je vous l'avais dit, le canal du Midi est classé en 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO et cela va apporter une certaine notoriété. Comme pour le canal du Midi, l'activité du tourisme fluvial est concentrée sur la location de bateaux sans permis. En 1970, la flotte touristique comportait 12 bateaux. Et aujourd'hui, on en compte plus de 450, induisant 500 emplois. Il est évident que l'impact économique est très important et joue un rôle déterminant dans les secteurs d'activité des villes et villages qui sont traversés par le canal. Son chiffre d'affaires est estimé à environ 26 millions d'euros par an. Le canal latéral à la Garonne traverse d'est en ouest une partie du sud-ouest de la France et il est long de 193 km. Il part du port de l'Embouchure à Toulouse. Dans un premier temps, il longe la rive droite de la Garonne qu'il franchit à Agen par un pont-canal le plus important parmi les 7 ponts-canaux du parcours. Le pont-canal d'Agen est long de plus de 500 mètres et compte 23 arches. Les autres ponts-canaux permettent de franchir quelques affluents de la Garonne, dont le Tarn et la Baïse. À la sortie du pont-canal d'Agen, le canal longe la rive gauche de la Garonne pour déboucher dans la Garonne à Castet-en-Dorth, situé à 54 km au sud-est de Bordeaux. Car à partir de là, le fleuve est totalement navigable. Et ce n'est pas tout. Le canal possède des liaisons avec le Tarn par le canal de Montech, qui est long de 11 km et qui comporte 10 écluses. Le canal de Montech a été construit en même temps que le canal latéral à la Garonne pour permettre, à partir de 1844, de joindre la Garonne à Montauban. Il a été fermé à la navigation en 1990 pour rénovation et réouvert en 2003. Le canal permet aussi de rejoindre la Baïse et le Lot. Mis à part les 5 écluses de Montech, toutes les écluses du canal latéral sont longues de 40 mètres et larges de 6 mètres. Les 5 écluses de Montech ont été doublées en 1974 par ce que l'on appelle la double pente de Montech. Cette double pente de Montech est un ascenseur qui a permis de remplacer les 5 écluses successives. Mais comme son homologue, la pente d'eau de Fonsrane à Béziers, et qui est beaucoup, bien que bien plus récent, elle était elle aussi hors service. Quant aux 5 écluses, elles ne servent plus que pour la navigation de plaisance. Enfin, il existe 83 ponts pour franchir le canal, tous reconstruits en 1933 pour les adapter à la circulation automobile. Voilà, nous arrivons au terme de notre voyage sur le canal des deux mers. Partie de Sète, nous avons traversé une partie du Languedoc à travers de magnifiques paysages, croisé de nombreuses embarcations, visité de très beaux villages et de très belles villes. À Castelnaudary, nous avons fait une escale gastronomique. Nous nous sommes émerveillés au passage de Toulouse, la ville rose. Nous n'avons pas manqué de saluer la fière statue de Pierre Paul Riquet, érigée en haut des allées Champs-Aurès, œuvre de Griffoul d'Orval. C'est une statue qui a été réalisée au XIXe siècle. Quittant le canal du Midi pour continuer notre voyage découverte, nous nous sommes engagés sur le canal latéral à la Garonne. Nous avons pu admirer de nouveaux paysages, nous avons fait de nouvelles découvertes. Au passage, nous avons admiré le remarquable pont canal d'Agen. À Castet-en-Dorth, en Gironde, nous avons pénétré sur la Garonne afin de gagner Bordeaux, situé à 53 km. La boucle est maintenant bouclée. Le rêve est devenu réalité. De la Méditerranée à l'océan Atlantique. Cet agréable voyage nous a fait parcourir 434 km et admirer le génie, au passage, d'un homme, Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, qui a poussé sa passion jusqu'à se ruiner pour édifier l'œuvre de sa vie. J'ai été très heureux de faire ce beau voyage avec vous. Nous voici arrivés à Bordeaux. Il est temps, avec un peu de mélancolie, de descendre de notre péniche. Chers auditeurs, j'ai été très heureux de découvrir avec vous cette fantastique voie d'eau, preuve du génie humain, du génie de notre région. Ce n'est qu'un au revoir. Nous nous retrouverons prochainement pour suivre une autre aventure. Elle nous amènera beaucoup plus loin et je vous promets qu'elle sera aussi passionnante. À bientôt sur Restoria.